Ce lundi de Pâques marque le début de la cinquième semaine de confinement en France. Qu'est-ce que le confinement nous apprend sur la relation que l'on peut avoir au temps et à l'espace? Pour nous éclairer, un spécialiste dont la voix est bien connue des auditeurs de France Culture. Bonjour Étienne Klein.
Bonjour Guillaume Erner, bonjour à tous.
Vous êtes producteur de l'émission La Conversation Scientifique sur France Culture. Vous avez notamment écrit un tract de crise chez Gallimard. Je ne suis pas médecin, mais qu'est-ce que le confinement change? Qu'est-ce qu'il change à notre rapport au temps, Étienne Klein?
Alors d'abord, il ne change rien au temps même. On a l'habitude de dire que la différence entre l'espace et le temps tient en ce que nous pouvons nous déplacer librement à l'intérieur de l'espace, alors que nous ne pouvons pas changer volontairement notre position à l'intérieur du temps. Donc, en somme, finalement, le lieu de notre liberté, alors que le temps serait une étreinte vis-à-vis de laquelle nous ne pouvons être que passifs. Le temps, mine de rien, c'est une sorte de prison sans barreaux, au moins pour notre corps. Et le confinement, évidemment, il va changer notre rapport à l'espace, mais aussi au temps. Or, j'entends qu'on en parle souvent comme une expérience purement temporelle. On se pose la question de savoir combien de temps il va durer, et on attend avec anxiété l'annonce ce soir du président de la République. Mais dans les faits, c'est-à-dire de façon concrète, le confinement se donne en premier lieu comme un phénomène purement spatial. C'est notre espace vital qui est soudain borné par quelques murs trop proches, comme si notre logement s'était métamorphosé en cage. Et donc, le confinement dont on parle, en fait, c'est un double confinement, c'est une double peine. Nous sommes confinés dans le temps, comme toujours, nous sommes prisonniers de l'instant présent, nous sommes en un seul point de la ligne du temps, et en plus, nous sommes confinés dans un petit volume d'espace qui transforme donc notre lieu de vie en une sorte de prison à l'extérieur de laquelle nous ne pouvons pas nous déplacer. Et notre rapport au temps, il s'en trouve bouleversé puisque nous perdons nos marques, nous manquons de repères temporels, nous confondons les jours. D'ailleurs, vous avez parlé du mardi de Pâques pour aujourd'hui.
C'est vrai que c'est compliqué de s'en souvenir.
Les jours se ressemblent, le week-end ne se distingue plus des jours de la semaine et on manque comme ça de repères, de marqueurs qui font que, et c'est très paradoxal, le fait d'avoir enfin le temps, et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, même si ce n'est pas le monde, le fait d'avoir le temps nous faisait perdre la notion même de temps. Ça, c'est vraiment le premier paradoxe du confinement. Et puis, il y en a un second qui est que le fait d'habiter chez soi, d'être chez soi, fait qu'on ne sait plus vraiment où on habite. C'est-à-dire que le confinement, il déplace notre barycentre existentiel. Il agit aussi comme un produit décapant. On ne peut plus trop se mentir, on est mis à nu. Et je ne doute pas qu'après cette expérience, nous allons retrouver une place, notre barycentre va retrouver un lieu, mais ce lieu sera peut-être différent de celui d'avant, il sera peut-être aussi situé ailleurs que précédemment. Il se peut que l'expérience du confinement change aussi notre rapport à l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'avant, plutôt que l'après sera différent de l'avant. Il faut se méfier parce que les historiens nous apprennent que, je pense à Patrick Boucheron qui travaille sur la peste noire, les épidémies n'ont pas toujours changé la donne et les leçons qui auraient pu en être tirées n'ont pas été prises parce que après que l'épidémie se soit terminée, se mettent en place des mécanismes d'amnésie collective. Et donc, et ce que je trouvais extraordinaire, c'est que avant le confinement, on parlait beaucoup de la fin du monde. La fin, on était immergé dans un présentisme qui disait que le futur était absent de nos représentations. Et là, alors que nous sommes dans la catastrophe, eh bien, on parle du monde de demain. Et donc, il y a une sorte de miracle accompli par le
Alors même qu'on vit dans une sorte d'éternel présent, puisque le confinement donne un caractère extrêmement répétitif au jour, Étienne Klein.
Oui, et on pense au futur. C'est comme si on était débarrassé du souci de l'accélération du temps. On est finalement synchrone avec le monde et on se pose la question du futur. Et ça, c'est quand même le seul miracle du coronavirus, c'est qu'il a inversé la flèche du temps. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. L'idée de la fin du monde qui était omniprésente, si on peut dire, était détournée par l'idée qu'il y aura un monde de demain, pas forcément le même, qu'il nous appartient de préparer du mieux possible, en tenant compte de ce que nous voulons, en tenant compte de ce que nous savons, et aussi en tenant compte de ce que nous apprenons et comprenons grâce à cette expérience absolument inédite.
Et alors vous, Étienne Klein, comment vivez-vous ce confinement?
Les premiers jours ont été des jours plutôt excitants parce que je pouvais faire tout ce que je n'avais pas eu le temps de faire. Et puis là, ça devient extrêmement pesant. Je suis quelqu'un de bouger. Et ne pas pouvoir faire du vélo quand il fait beau, c'est quand même un supplice. Mais il y a bien pire, donc je me considère comme un grand privilégié.
Est-ce que c'est une manière, en tout cas, d'expérimenter pour vous, eh bien, toutes les conceptions que vous aviez du temps et de l'espace, puisque à quelque chose, malheur est bon, Étienne Klein, et finalement, vous nous dites que le confinement permet de se rappeler qu'il y a un lien étroit, ce que les physiciens savent, entre l'espace et le temps.
Oui, alors les physiciens, ils travaillent sur l'espace-temps et pas du tout sur le rapport que nous avons avec l'un et l'autre. Et donc l'expérience du confinement ne change pas la façon de décrire l'espace-temps. Elle ne décrit pas non plus le temps, c'est-à-dire que confinés ou pas, quoi que nous fassions ou quoi que nous fassions pas, que nous ne fassions pas, une minute dure 60 secondes, qu'elle soit de télétravail ou d'ennui, de jouissance ou d'extase. Et donc le temps n'est pas modifié par tout cela. Par contre, moi j'ai l'impression que quand notre regard est borné quand notre regard ne tombe que sur des murs, un peu comme les prisonniers. Notre rapport au futur est modifié. C'est-à-dire que pour voir loin dans le temps, il me semble qu'il faut voir loin dans l'espace. C'est une
Et
impression
puis,
parfaitement
Étienne Klein.
subjective.
Il y a également, avec la crise du coronavirus, de plus en plus de polémiques, de controverses scientifiques ayant trait à la science, notamment suite, par exemple, aux remèdes qui sont vantés par le professeur Didier Raoult. Qu'est-ce que ça vous inspire, Étienne Klein?
Il y a des choses qui m'ont effrayé. C'est-à-dire que vous connaissez ce texte d'Antonin Artaud qui s'appelle Le théâtre et son double, dans lequel il dit à propos de la peste, c'est vrai pour n'importe quelle épidémie, l'épidémie fait tomber les masques. C'est une expression d'ailleurs curieuse, ces tons de polémique sur les masques, mais l'idée c'est qu'on est mis à nu, le confinement c'est comme un chalumeau existentiel qui pulvérise la plupart de notre investissement. Et à propos de la controverse dont vous parlez, j'ai trouvé assez bizarre que le ressenti des uns et des autres permette de juger sans en savoir plus sur l'efficacité d'un traitement ou d'un médicament ou d'une mesure préventive. C'est comme si la science et les croyances finalement devaient fusionner, que la séparation qui est poreuse entre elles devait être considérée comme inexistante. Et ça m'a plutôt inquiété, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a perdu toute patience parce qu'il y a urgence qu'un médicament devient plus efficace. C'est pas non plus parce qu'un médicament est populaire qu'il est efficace. Autrement dit, sur ces questions qui sont compliquées, il faut attendre que les chercheurs qui sont extrêmement actifs aujourd'hui tranchent une question que seul le ressenti ne peut pas trancher. Et donc je
Et
pense
donc
que, en tout cas, cette expérience, elle éclaire d'un regard nouveau, la relation très ambivalente que la science et la société ont entre elles.
Une crainte qu'il y ait une incompréhension plus forte encore sur la véritable nature de la science.
Oui, enfin moi mon espoir, mais il est sans doute, il n'y a aucune chance. C'est pas tout ce qui soit compréhension entre guillemets. Moi, j'aimerais bien qu'on relativise un peu notre relativisme, c'est-à-dire qu'on soumette le relativisme à lui-même, on lui applique ses
Yes.
propres critères, et qu'on considère que toutes les vérités scientifiques ou tous les résultats de la science ne sont pas simplement des constructions sociales et qu'on ne peut pas décider de leur validité par un sondage.
Merci beaucoup. Étienne Klein, il est
Merci à vous.
7h25 sur France Culture.